Père Jean-Louis Scat, vous êtes professeur d'exégèse à Rome. Est-ce qu'aujourd'hui encore on lit l'Ancien Testament? Est-ce que ça vaut le coup?
Je répondrai en citant un de mes professeurs. Il disait ceci: lorsqu'on ne connaît pas l'Ancien Testament, on comprend peut-être la moitié du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament contient un vocabulaire, des images, des façons de penser, des façons de raconter qui ont toutes leurs sources dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire que l'Ancien Testament, c'est comme le dictionnaire du Nouveau Testament. Ou on pourrait dire aussi que Jésus de Nazareth et les apôtres ne connaissaient qu'un livre, en fait, ou une série de livres qui sont aujourd'hui les livres de l'Ancien Testament. C'était leur bibliothèque. Et lorsqu'ils devaient consulter ou lorsqu'ils devaient parler, ils avaient appris à lire, à écrire et à penser en consultant cette bibliothèque. Et c'est pourquoi il est important de connaître l'Ancien Testament, peut-être pas tout l'Ancien Testament, mais une bonne partie, pour comprendre le Nouveau Testament. Il y a aussi une autre chose, c'est que l'Ancien Testament, il a fourni également au monde chrétien toute une série d'images, toute une série de représentations, toute une série de personnages, et toute une série également de symboles et de récits qui ont formé la conscience chrétienne. Et non seulement les premiers récits de la Genèse, la création, le déluge ou la tour de Babel, mais lorsqu'on étudie la civilisation occidentale, on se rend compte qu'il y a toute une série de notions importantes dans la littérature, dans la peinture, dans les arts, mais également dans le monde juridique, également dans le monde de l'histoire, des notions qui proviennent de l'Ancien Testament.
Vous avez parlé de symboles, Jean-Louis Scat. Oui. Justement, parmi les grands symboles, le passage de la mer Rouge. Comment comprendre le Nouveau Testament sans le mettre en résonance avec le passage de la mer Rouge?
Le récit de l'Exode, et spécialement le récit du passage de la mer, est une des lectures essentielles de la veillée pascale. Parce que tout le symbolisme de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne se trouve en grande partie résumé dans ce récit. On a le symbolisme de l'eau et du baptême, puisque le peuple traverse la mer. Lorsqu'il arrive au bord de la mer, il est encore esclave et il passe de l'esclavage à la liberté. Il était encore sous l'emprise de Pharaon puisqu'il a peur du Pharaon et de son armée. Et de l'autre côté, il n'a plus peur, il est passé à la foi et à la foi en son Dieu. Et il passe également des ténèbres à la lumière parce qu'il y a tout un symbolisme du jour et de la nuit et de l'aube dans ce récit. Le peuple arrive le soir au bord de la mer, il traverse la mer pendant la nuit et il arrive au matin de l'autre côté à l'aube. Et l'aube d'une vie nouvelle puisqu'il passe de l'esclavage à la liberté et qu'il commence une nouvelle vie, il devient le peuple de Dieu. Les symboles alors de ce récit sont repris dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas par hasard que Jésus ressuscite au matin de Pâques ou que le matin est un moment essentiel dans l'Ancien Testament. C'est le moment du salut, c'est le moment où Dieu rend justice. Le matin, l'aube, est le moment aussi où on passe des ténèbres à la lumière. Et l'aube de Pâques est la première aube du premier jour de la première semaine de la nouvelle création, puisque c'est le premier jour de la semaine. Ou le premier jour de la semaine dans la Genèse est le jour où Dieu a créé la lumière. Le premier jour de la première semaine, qui est le matin de Pâques, est celui où surgit la lumière de la nouvelle création.
Jean-Louis Scat, quand on regarde les titres de vos nombreux ouvrages, on a l'impression qu'un des fils rouges, justement, que vous essayez de mettre en œuvre, c'est de donner de la lumière au texte de l'Ancien Testament. Il y a un titre, « L'Ancien Testament expliqué à ceux qui n'y comprennent rien ou presque ».
C'est un petit peu l'Ancien Testament expliqué au nul. Hein, comme... Mais j'essaie de rendre le texte accessible. C'est un petit peu le rôle d'un professeur, d'un enseignant. C'est de donner le goût de la lecture. J'ai lu il y a très très longtemps de cela que la première chose et la chose principale qu'un enseignant transmet, ce ne sont pas des contenus, ce ne sont pas des formules, ce ne sont pas des notions, c'est une passion. Et lorsqu'on réussit à transmettre la passion, ben on a transmis l'essentiel parce que les notions changent, les théories changent, les idées changent, mais la passion reste. Ces livres-là, surtout celui-là, ont pour but de donner la passion de la lecture, d'avoir l'impression de comprendre. Bon, on entre dans une forêt obscure, Et puis peu à peu, on voit le soleil se lever, on comprend, on retrouve son chemin et on s'oriente et puis on avance. Et une fois qu'on a commencé à avancer, il suffit de continuer.
Et dans un autre livre, vous dites vous-même que vous essayez d'ouvrir différentes fenêtres.
Il y a différentes façons de lire la Bible et différentes façons de lire. Le problème, ce n'est pas lire la Bible, c'est lire. Il faudrait réapprendre à lire. Lire, ça signifie entrer dans un monde. Et puis, non seulement entrer dans un monde, mais recréer ce monde. Il n'y a pas de texte sans participation active du lecteur. Les pages d'un livre sont comme les pages d'une partition de musique. Il faut jouer ou il faut chanter. Et donc, si on n'interprète pas, si on ne fait pas chanter le texte, si on ne joue pas la musique, eh bien, il n'y a pas de musique. Les petits livres, les petits manuels que j'ai écrits veulent inviter à jouer. À jouer ou à chanter. Et c'est quand on fait chanter le texte qu'il commence à parler. Et si on ne le fait pas chanter, ben il ne parlera pas, il reste muet.
Vous dites aussi que le Nouveau Testament n'est pas compréhensible si on ne le met pas en résonance avec l'Ancien Testament. Et dans un de vos livres, justement, vous dites comment le disciple Jean nous dit que toute l'humanité est sacrée et que la vie entière est liturgie.
Oui, c'est une idée qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, dans un livre très peu lu, et pour de très bonnes raisons d'ailleurs, qui s'appelle le Lévitique, où Dieu dit « Soyez saints parce que moi je suis saint ». Ce qui veut dire qu'en Israël, tout est sanctifié par la présence de Dieu qui n'habite plus sur la montagne, mais qui désormais habite au milieu du camp, dans un sanctuaire, dans la tente de la rencontre. S'il est tout proche d'Israël, eh bien, il sanctifie Israël, ou Israël est invité à se sanctifier. Et cette image d'un Dieu qui habite une tente au milieu d'un campement et qui accompagne son peuple sur la route à travers le désert jusqu'à la terre promise est reprise par saint Jean lorsqu'il dit « Le Verbe a planté sa tente parmi nous et il s'est fait chair et il habitait parmi nous ». Ça veut dire que déjà dans l'Ancien Testament, on a l'idée que la distinction, c'est caractéristique de toutes les religions, entre sacré et profane est abolie, puisque Dieu est présent au milieu du peuple. Et cela est repris par le Nouveau Testament, appliqué alors, bien entendu, à l'incarnation de Jésus-Christ. Pour l'Évangile, alors, c'est le monde entier, c'est toute l'humanité et toute la vie humaine qui devient sacrée, qui devient service de Dieu. Tout devient liturgie. N'importe quelle activité est liturgique parce que toute activité humaine est service de Dieu et en même temps service de l'humanité.
Jean-Louis Ska, quand vous regardez votre parcours, ces 40 ans à Rome d'enseignement, est-ce que c'est votre fil rouge, transmettre, enseigner?
Ça a été ma vie. C'est ma vie, ça a été d'enseigner. Et enseigner signifie pas simplement parler. Je crois que c'est important qu'on enseigne aussi parce qu'on vit. On n'enseigne pas seulement lorsqu'on parle, mais les actes et les paroles doivent coïncider. Et puis, tous les chrétiens ne sont pas des enseignants au sens propre du terme, mais ils sont appelés à l'être au sens large du terme, parce que c'est la vie qui enseigne. On enseigne par ce qu'on vit, par ce qu'on fait et par ce qu'on transmet.
Jean-Louis Ska, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Cardinal Martini disait ceci. Il y a trois façons de lire la Bible. La première est celle du prédicateur, qui lit son texte et qui se pose la question suivante, qu'est-ce que je vais dire? Et quand il a trouvé quelque chose à dire, il ne cherche plus. Il y a la façon de lire la Bible de ceux qui méditent, les groupes de prière, les groupes bibliques, et qui ouvrent le texte et qui se posent cette question-ci, qu'est-ce que le texte me dit? Et lorsqu'on a trouvé quelque chose, on ne va pas chercher plus loin. Il y a une troisième façon de lire la Bible qui est peut-être plus fructueuse, qui permet d'aller un peu plus loin, c'est de se poser simplement la question, qu'est-ce que le texte dit?
Merci Jean-Louis Ska.
Merci à vous aussi. Merci.